Docteur Hiver, bonjour.
Bonjour.
Alors, merci en tout cas de nous recevoir sur votre lieu de travail. Alors, vous travaillez à la fois à Rambouillet.
Absolument.
Et puis également à Chevreux. Si vous pouvez, pour nos auditeurs, présenter un peu ce que vous faites.
Alors, je suis donc médecin et à Rambouillet, je fais partie de l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe mobile de soins palliatifs. C'est-à-dire que notre équipe est appelée dans différents services par les médecins ou par les médecins ou les soignants pour des situations de douleur ou de personnes gravement malades pour lesquelles il y a des éléments difficiles, soit de symptômes physiques.
Et à Chevreuse
Chevreuse, là, je suis responsable de ce qu'on appelle un long séjour. C'est un peu l'équivalent d'une maison de retraite, mais assez médicalisée pour des personnes âgées, médicalement assez dépendantes.
Alors, vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Le Souffle d'Or, intitulé « Apprivoiser le dernier souffle, regard d'un médecin en soins palliatifs ». Pour l'avoir lu, si on en reste uniquement au titre, on peut se dire, on va nous parler, aborder la question des soins palliatifs, c'est un sujet d'actualité, enfin, dont on parle régulièrement. Et puis, en fait, le titre de votre livre, c'est un peu un trompe-l'œil. Vous parlez certes de la fin de vie, mais vous parlez de bien d'autres choses. Vous partez de votre expérience personnelle, de vos ressentis, de ce que vous avez découvert, de la façon dont vous voyez la vie, pour nous parler justement des personnes qui sont en fin de vie.
Absolument. Le titre m'a été proposé par l'éditeur et je pense que ça correspond exactement à ce que j'ai cherché à partager.
Oui.
C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un ouvrage sur les soins palliatifs. C'est pour ça que j'ai mis simplement « Regard d'un médecin en soins palliatifs ». J'ai cherché à partager un maximum d'éléments que j'ai tirés de mon expérience personnelle, de mon enfance, de mon parcours. Pas pour m'étaler, je me suis rendu compte que quand j'accompagne des personnes ou des patients, des familles, des soignants, des médecins, des amis confrontés à des situations de fin de vie ou des situations graves, faisant qu'on est confronté effectivement à la finitude de notre vie, je puise toujours dans mon histoire personnelle. Donc j'ai essayé de rassembler un maximum de choses et d'éléments, donc soit de ma vie personnelle, soit de ma vie avec des patients ou des familles, pour les partager.
Mais justement, oui, vous l'évoquiez à l'instant, vous parlez de votre vie, de votre enfance, de vos relations avec notamment votre grand-mère, ce qui explique entre autres le parcours que vous avez eu et la façon dont vous avez eu d'aborder la fin de vie avec les patients.
Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'éléments qui m'ont conduite à m'occuper de personnes en fin de vie et qui m'ont conduite à commencer médecine très tardivement, puisque je commence médecine seulement à 30 ans.
C'est là que je voulais en venir aussi, parce que c'est pas du tout ce que vous souhaitiez faire au début, enfin ce que vous aviez prévu de faire.
Si, petite.
Mais en tout cas, après, vous avez fait autre chose, c'est ça que je...
Ben, ce dont je me suis rendu compte, et là aussi, je pense que ça aide, je me suis rendu compte que j'étais amenée à aider, ça aidait pas mal de personnes. Je me demandais vraiment pourquoi j'étais là, et quel était le sens de cette existence, même très petite. Et en même temps, il y avait cet attrait pour la médecine. Même si toute petite, je ne savais pas ce que c'était que la médecine. Mais j'avais cet attrait. Et en fait, il fallait vraiment que je trouve des réponses intérieures, même si j'avais recevé une éducation religieuse qui nourrissait ce questionnement, mais qui sans apporter de réponse. Donc il fallait que je trouve des réponses intérieures avant de pouvoir commencer médecine. Et en fait, je pense que cette quête intérieure que j'ai eue a fait que dès la deuxième année de médecine, je savais que je m'occuperais de soins palliatifs et de personnes confrontées à la fin de vie.
Justement, les soins palliatifs, et vous l'évoquiez au début de cet entretien, disant que c'est pas simplement un ouvrage, c'est pas un ouvrage sur les soins palliatifs, mais un regard d'un médecin. Vous cherchez à changer l'approche de la famille, des malades, de cette période très sensible, très délicate de la vie, pour transformer cette fin de vie.
Je m'aperçois que quand chaque fois que j'aborde une situation ou que je suis sollicité pour une situation de fin de vie ou que je rencontre une famille en difficulté ou un patient, en fin de compte, je n'ai pas l'idée de changer son regard. Donc je vais beaucoup écouter ce qui est exprimé verbalement et non verbalement. Et en fait, je m'aperçois qu'à chaque fois, quand il y a une grande souffrance, hein, morale ou psychique, alors physique, on peut mettre en place des traitements, mais quand il y a une souffrance qui est au-delà, qui est plus psychique ou intérieure, ou ça vient toujours d'un regard qui s'est rétréci, qui ne voit pas assez large. Donc j'essaie toujours de proposer des ouvertures, de proposer un regard un peu plus large. Mais c'est simplement des propositions que je fais.
Oui.
Diverses propositions que je fais, mais je me rends compte que ça amène toujours un peu une détente. Et ce que j'essaie de partager dans ce livre, c'est justement toutes ces possibilités de regard un peu plus large que moi-même j'ai découverte.
Et puis ça amène aussi une conception de la fin de vie différente également, parce que c'est vrai que quand on discute comme ça froidement, on se dit, on a tous entendu des gens dire, cette personne souffre, elle veut partir, faut la laisser partir. Or vous ne portez pas de jugement sur cet état d'esprit, sur ce qui est dit, mais vous dites, non, c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors on savait déjà que souvent les personnes souffrantes, les malades souffrants ou en fin de vie, c'est un appel au secours. Mais vous allez au-delà de tout ça. Vous voulez montrer que il y a autre chose à faire que de répondre à cette demande. C'est bien ça?
Alors, c'est difficile de répondre juste en deux, trois mots, parce que c'est tellement débattu, c'est un sujet très, très actuel. Mais j'essaie d'apporter des éléments. Donc, c'est vrai que je ne veux pas entrer dans toute une polémique, toute une discussion actuelle, mais c'est vrai que j'ai à cœur d'apporter des éléments. Entre autres, par exemple, quand quelqu'un d'une famille me demande, mais il faut faire quelque chose, il faut accélérer, il faut faire quelque chose, ça ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer. Souvent, il y a une chose que j'amène, c'est que j'ai rencontré régulièrement des patients qui avaient en leur temps demandé eux-mêmes pour un proche une accélération des choses, et qui, arrivés en fin de vie pour eux-mêmes, étaient terrorisés à l'idée qu'on pourrait éventuellement accélérer les choses pour eux-mêmes. Oui. Donc très, très fréquemment, il m'arrive de dire, en particulier avec des gens âgés, on ne fait rien pour accélérer quoi que ce soit, on ne fait rien non plus pour vous retenir à tout prix. C'est-à-dire, on ne s'acharne pas. Mais on ne fait rien pour vous retenir à tout prix. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est que vous soyez le moins inconfortable possible. Vous voyez, cette demande d'accélération des choses, ça peut avoir des effets délétères à très long terme.
Oui.
Les gens qui sont dans cette demande-là ne savent pas du tout ça. Donc ça, c'est un des éléments, par exemple, que j'essaie de partager dans ce livre.
Mais vous ne portez pas de jugement dans votre livre, jamais
non.
De jugement sur ces...
Non, bien sûr
que
non.
Possible.
C'est pas possible. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut juger des gens qui sont en grande souffrance? On cherche une issue.
Même de l'entourage.
Quand je dis les gens, une grande souffrance,
c'est,
je veux dire, on est tous liés. Une personne en souffrance, c'est à la fois la personne malade, mais c'est aussi tout son entourage, entre autres.
Moi, j'ai été surpris. Il y a des témoignages dans votre livre. Cet homme qui est malade, qui sait qu'il va partir, il est avec son épouse. Et en fin de compte, votre démarche d'accompagnement, de discussion, d'échange, de conduire...
Celui qui demande, il m'informe qu'il est inscrit.
Voilà. Il met tout sa vie en ordre, il est serein, il est apaisé, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il vous a exprimé, et puis il part. C'est pour ça qu'il y a quelques instants, vous avez dit que vous n'accélérez pas, mais vous ne retenez pas non plus. Et on s'aperçoit dans votre livre que cette démarche fait que certains patients, une fois qu'ils ont compris, qu'ils ont réfléchi, qu'ils ont échangé, qu'ils ont discuté, qu'ils se sont enrichis, dirais-je, s'en vont.
Oui.
Naturellement.
Oui. C'est vrai que des patients qui vont vouloir à tout prix faire des traitements agressifs, bien sûr, je vais les respecter complètement. Je ne cherche pas, je vais dire, s'ils veulent s'acharner, entre guillemets, c'est-à-dire avoir des traitements... Oui, mon but n'est pas de faire des traitements agressifs, mais s'ils en veulent, bien sûr, je vais les accompagner là-dedans, c'est OK. Mais je ne vais jamais accélérer quoi que ce soit, et ce ne sera pas de mon fait en tout cas, et je vais essayer de les accompagner dans le... Donc, et c'est vrai que ce monsieur dont vous parlez, c'était quelque chose de tout à fait tout à fait remarquable, parce qu'il était vraiment au démarrage tout à fait... le fauteuil roulant, je n'en veux pas, alors qu'il avait une pathologie qui allait le conduire vers le fauteuil roulant, et qui allait le conduire vers une insuffisance respiratoire. Donc ça, le fauteuil roulant, c'est ma limite. Et puis il a eu un fauteuil. J'ai dit, OK, je respecte complètement. J'ai pas discuté de ça.
Ouais.
Et finalement, il a eu toute une démarche d'ouverture. Et ce qui a été merveilleux, c'est qu'il m'a... Donc il y a eu des échanges extrêmement riches, mais je vais peut-être partager juste une chose, c'est qu'à un moment donné, il m'a dit, mais avant, j'étais vraiment un petit con. Les seules choses qui comptaient pour moi, c'était d'avoir du fric, d'avoir des vacances à la mode, d'avoir des beaux vêtements, c'était le paraître, voilà.
Ouais.
Et vous vous rendez compte, l'autre jour, cet aide-soignant qui m'a conduit dans ce grand hôpital à Paris, il m'a poussé dans mon fauteuil roulant. Il y a tellement d'amour, tellement de... Vous vous rendez compte? J'aurais jamais perçu ça, je me serais jamais rendu compte de ça avant.
Ouais.
Donc, il s'est complètement ouvert. C'était vraiment magnifique.